Il était très facile de rejoindre la surface. Au sommet de chaque tronc d'arbre se trouvait une colonne supportant le dôme de la ville souterraine, au niveau duquel il était possible de prendre un ascenseur pour monter directement à la surface en traversant quelques 300 mètres de roche. Lorsque Luoji et Shixiang sortirent de l'ascenseur, ils furent aussitôt gagnés par un sentiment de nostalgie. Sur les murs et le sol du hall de sortie ne se trouvait aucune fenêtre d'information activable. Toutes les informations étaient transmises par de vrais écrans suspendus au plafond. On avait l'impression d'être à l'intérieur d'une ancienne station de métro. Les gens étaient peu nombreux et la majorité d'entre eux portaient des vêtements qui ne clignotaient pas. En passant le sas du grand hall, un coup de vent leur souffla sur le visage, apportant une odeur de poussière.
« C'est mon fils !»
cria Shixiang en pointant un homme en train de gravir en courant les marches de la station. De cette distance, Luoji put simplement voir que l'homme avait la quarantaine. Il s'étonna que Shixiang soit si sûr de l'avoir reconnu. Ce dernier courut dans l'escalier pour le retrouver. Luoji détourna son regard de ses retrouvailles entre père et fils et concentra son attention sur le monde de la surface qui s'étendait devant lui. Le ciel était jaune. Il comprenait à présent pourquoi l'image de la ville souterraine devait être prise depuis une hauteur d'une dizaine de milliers de mètres, car, en regardant le ciel, on apercevait à peine les contours flous du disque solaire. Le sable recouvrait tout. Les voitures tiraient derrière elles de longues queues de poussière. Luoji découvrit donc un autre élément qui appartenait au passé. Ici, les voitures roulaient à la surface. Ces véhicules ne semblaient pas fonctionner à l'essence, et il y en avait de toutes les formes, des neuves comme des épaves, mais toutes partageaient un point commun. Sur leur toit était fixée une plaque qui ressemblait à un auvent. De l'autre côté de la rue, Luoji remarqua un immeuble à l'ancienne dont les rebords des fenêtres étaient couverts de poussière. Les fenêtres n'étaient pas closes et certaines présentaient même des trous noirs béants. Il était pourtant évident que l'immeuble était habité. Luoji vit du linge étendu au balcon et même quelques pots de fleurs aux fenêtres. Bien que le sable et l'atmosphère poussiéreuse gênassent sa visibilité, il remarqua vite les contours de quelques architectures familières et il acquit la certitude qu'il était bien revenu dans cette ville où il avait habité la moitié de sa vie. Il descendit les escaliers pour rejoindre les deux hommes qui s'enlaçaient et se donnaient des tapes joyeuses dans le dos. En voyant l'homme de plus près, il sut que Shixiang ne s'était pas trompé.
« Papa, si on fait le calcul, j'ai 5 ans de moins que toi !»
expliqua Shi Xiaoming tout en essuyant les larmes dans le coin de ses yeux.
« Tant mieux, fiston. J'avais peur d'une chose, qu'un vieillard à barbe blanche m'appelle papa !»
dit Shixiang en riant. Puis il présenta Luoji à son fils.
« Oh, bonjour, professeur Luo. Vous étiez une sacrée célébrité dans le temps. »
fit Shixiaoming en examinant Luoji des pieds à la tête. Tous les trois s'avancèrent vers la voiture de Shixiaoming, qui était garée au bord de la route. Avant de grimper dans le véhicule, Luoji s'enquit de la nature de la plaque sur le toit.
« C'est une antenne ? Ici, à la surface, on profite des fuites d'électricité qui viennent de la cité souterraine. Les antennes doivent donc être suffisamment grandes. On arrive à faire rouler nos voitures, mais elles ne peuvent pas voler. »
Le véhicule n'était pas rapide, mais Luoji ignorait si c'était en raison d'un manque de puissance ou bien à cause du fait qu'il roulait au milieu du sable. Il regarda derrière la fenêtre la cité envahie par la poussière. Il était assailli de questions. Mais Shi Xiaoming et Shi Xiang continuaient à parler et il ne pouvait pas les interrompre.
« Maman est morte en l'an 34 de la grande crise. À ce moment-là, ta petite fille et moi étions à ses côtés. »
« Oh, c'est bien. » Et tu n'as pas emporté ma petite fille ?
Après le divorce, elle a suivi sa mère. J'ai cherché dans le registre, la gamine est décédée en 105. Elle a vécu plus de 80 ans.
C'est triste de ne jamais avoir pu voir son visage. En quelle année as-tu fini de purger ta peine ?
En 19.
Et après, qu'est-ce que tu as fait ? Un peu de tout. Au début, comme je ne trouvais rien, eh bien, j'ai continué dans l'arnaque. Puis j'ai travaillé dans le commerce légal. J'ai gagné un peu de fric et quand j'ai vu les signes avant-coureurs du Grand Ravin, je me suis fait hiberner. À l'époque, je ne pensais pas que l'avenir serait forcément mieux. Je me suis simplement dit que je voulais venir te voir.
Est-ce que notre maison est toujours là?
Les droits de propriété ont dépassé les 70 ans réglementaires, mais je n'y suis resté qu'un moment avant qu'on démolisse la maison. Celle que j'ai achetée ensuite est encore debout, mais je ne suis pas retourné voir.
Xi Xiaoming montra l'extérieur.
Maintenant, la population de la ville n'atteint pas même 1% de celle de notre époque. Tu sais ce qui vaut le moins cher aujourd'hui?
Les maisons.
Ce qu'on cherchait autrefois à acquérir pendant toute une vie. Aujourd'hui, tout est vide, on peut habiter où on veut.
Luo Ji arriva enfin à trouver une faille pour s'engouffrer dans la discussion entre les deux hommes. Les hibernautes réveillés habitent-ils tous dans la vieille ville?
Jamais de la vie. Ils habitent tous en périphérie. Il y a trop de sable dans la ville et puis surtout, il n'y a rien à faire. Bien sûr, il faut s'arranger pour ne pas habiter trop loin de la ville souterraine de façon à puiser un peu d'électricité.
Qu'est-ce que vous faites tous? Demanda Xi Xiang.
À votre avis? Qu'est-ce qu'on peut faire que les enfants ne savent pas faire? Cultiver la terre, pardi!
Comme tous les autres hibernautes, Xi Xiaoming avait pris l'habitude d'appeler les hommes modernes des enfants, quel que soit leur âge. La voiture quitta la ville et se dirigea vers l'ouest où la poussière était moins dense. Tandis que la route se dévoilait, Luo Ji reconnut l'autoroute de Jinshi. Les deux bords de la chaussée étaient maintenant recouverts de sable jaune. Les bâtiments du passé se dressaient, inébranlables, au milieu du désert. Sur la grande plaine de Chine du Nord, victime de désertification, on voyait néanmoins quelques petites taches de vie organique, des oasis entourées d'arbres épars. Xi Xiaoming expliqua qu'il s'agissait des villages occupés par les hibernautes. La voiture pénétra dans l'une des oasis, un quartier résidentiel entouré d'une forêt de protection contre l'avancée du sable. Xi Xiaoming leur indiqua qu'ils étaient entrés dans le cinquième village de la nouvelle vie. À sa descente de voiture, Luo Ji eut le sentiment de remonter le temps. Il vit une rangée d'immeubles à 6 étages et, dans l'espace vide devant les immeubles, des vieillards assis sur des bancs en pierre jouaient aux échecs. Des mères promenaient leurs enfants en poussette et un groupe de gamins jouait au football sur une pelouse irrégulière ayant poussé dans le sable. La famille de Xi Xiaoming habitait au 6e étage. Son épouse actuelle avait 9 ans de moins que lui. Elle avait été hibernée en l'an 21 de la Grande Crise à cause d'un cancer du foie. Elle s'était maintenant parfaitement remise. Ils avaient un fils de 4 ans qui appela Xi Xiang papy. Le repas cuisiné en l'honneur de Xi Xiang et Luo Ji était succulent. On leur servit des légumes qui poussaient au village, ainsi que de la viande de poulet et de porc provenant d'autres fermes de la région. Même l'alcool était maison. 3 voisins furent invités. Comme Xi Xiaoming et sa famille, eux aussi étaient entrés en hibernation relativement tôt, à une époque où l'opération était très onéreuse et réservée à la frange la plus aisée de la société ou aux enfants de parents très fortunés. 1 siècle s'était écoulé et ils étaient devenus ici des gens ordinaires. Xi Xiaoming présenta notamment l'un des voisins, Chang Yan, le petit-fils de Chang Yuan Chao, l'homme qu'il avait arnaqué en lui vendant un fonds d'évasion.
Tu m'avais bien dit de rendre l'argent à celui que j'avais escroqué, non?
Quand je suis sorti de tôle, j'ai commencé à rembourser et j'ai eu l'occasion de rencontrer Yan Xi. Il venait juste d'être diplômé de l'université. Inspiré par les dernières volontés des 2 voisins de son grand-père, on a ouvert ensemble une entreprise de pompes funèbres, la compagnie Gaoshen. Gao, eau, pour les funérailles spatiales. Le principe était au début d'envoyer les cendres au-delà du système solaire. Et puis on a aussi développé le lancement de corps entiers. Bien sûr, le prix n'était pas le même. Shen, profond, pour les funérailles minières. À l'origine, on enterrait les corps dans des mines abandonnées, puis on a commencé à creuser de nouvelles mines. Le principe était le même, bâtir des tombes hors de portée des trisolariens.
Celui que Xi Xiaoming avait appelé Yan Xi paraissait un peu plus âgé, entre 50 et 60 ans. Xi Xiaoming expliqua qu'il s'était réveillé une première fois et avait vécu pendant 30 ans
avant de se faire de nouveau hiberner un peu plus tard. Légalement, quel est votre statut ici ? Demanda Luoji.
Le même que tous ceux qui habitent dans les quartiers résidentiels modernes. Ici, nous sommes en périphérie lointaine de la ville et nous avons notre propre gouvernement de quartier. Il n'y a pas que des hibernautes dans le voisinage. Il y a aussi des hommes modernes et des touristes qui montent de la ville souterraine pour visiter.
Chang'an poursuivit.
Les hommes modernes, nous les appelons les zappeurs de murs, parce que quand ils arrivent ici, ils ne peuvent pas s'empêcher de pianoter sur les murs pour activer des fenêtres d'information.
Comment est la vie ici ? Demanda Shixiang. Ils répondirent tous qu'ils n'avaient pas à se plaindre.
J'ai remarqué les champs le long de la route. Vous arrivez à vous en sortir simplement en vivant de l'agriculture ?
Pourquoi pas ? Maintenant, en ville, les produits fermiers sont devenus des produits de luxe. Et puis, le gouvernement traite relativement bien les hibernautes. Même sans travailler, vous pouvez vivre confortablement grâce aux subventions accordées par l'État.
Mais bon, il faut quand même trouver quelque chose à faire. Ce serait idiot d'affirmer que tous les hibernautes sont des experts en agriculture, parce que aucun de nous n'était fermier à l'origine, mais il a bien fallu qu'on s'y mette.
La discussion dévia rapidement sur l'histoire de ces deux derniers siècles.
Qu'est-ce que le grand ravin ? Demanda Luoji. Il allait enfin avoir la réponse à cette question qu'il voulait poser depuis longtemps.
Les mines se firent soudain graves. Xi Xiaoming fixa son assiette et termina rapidement son contenu avant d'embrayer sur le sujet.
« Vous devez en avoir eu une petite idée depuis quelques jours que vous êtes là.
C'est une longue histoire.
Pendant la décennie qui a suivi votre hibernation, la vie n'était encore pas trop mal. Mais l'économie mondiale a commencé à décliner rapidement. Le niveau de vie s'est détérioré de jour en jour. Le climat politique s'est tendu. On sentait vraiment qu'on était en période de guerre. »
Un voisin ajouta.
Ce n'était pas juste le cas de quelques pays, c'était toute la planète qui était dans la même situation. La société était au bord de l'implosion. Une phrase de travers et on vous accusait d'être un membre de l'OTT ou un traître à l'espèce humaine. C'était la paranoïa absolue.
Les films de l'âge d'or ont commencé à être restreints, puis censurés dans le monde entier. Évidemment, il y en avait trop, ils ne pouvaient pas tout interdire.
Quel intérêt ?
Ils avaient peur que la nostalgie du passé mine l'esprit de combat, expliqua Xi Xiaoming. Mais tant qu'il y avait à manger, on pouvait encore faire avec. Plus tard, la situation a empiré. Le monde entier a commencé à crever de faim. C'était quelque chose comme 20 ans après que le professeur Luo est entré en hibernation.
À cause de la transition économique ?
En partie, mais surtout à cause de la dégradation de l'environnement. Il y avait encore une législation environnementale, mais l'époque était au pessimisme et la plupart des gens se demandaient « À quoi bon protéger l'environnement ? Si la Terre devenait un jardin, est-ce que ça ne revenait pas à le préserver pour les envahisseurs trisolariens ?» Plus tard, le simple fait d'avoir des convictions écologistes faisait de vous un vendu à l'OTT et un traître envers l'humanité. Une association comme Greenpeace a été accusée d'être une branche de l'OTT et a été dissoute. Pendant ce temps, les industries militaires lourdes des armées spatiales aggravaient la pollution de l'environnement sans qu'on puisse les contrôler. L'effet de serre, le dérèglement du climat, la désertification... Il soupira.
La désertification a vraiment commencé au moment où je me suis fait hiberner, ajouta un autre voisin. Ce n'était pas comme vous pouvez l'imaginer. Le désert ne s'est pas mis à avancer progressivement depuis la Grande Muraille. Non, c'est ce qu'on a appelé des bouquets d'érosion. Des grandes parcelles de terre ont commencé en même temps à devenir des petits déserts et à s'étendre dans différentes directions, comme un chiffon mouillé séché par le soleil. Et puis la production agricole s'est effondrée. Les stocks de céréales se sont épuisés, et puis ça a été le grand ravin.
La prédiction selon laquelle le niveau de vie reculerait d'un siècle, s'est-elle réalisée ? Interrogea Luoji. Xi Xiaoming éclata d'un rire amer.
Mon bon professeur Luo, d'un siècle ? Dans vos rêves ?
À l'époque, si on était remonté 100 ans en arrière, on aurait été dans les années 1930 à peu près. Mais ça aurait été le paradis par rapport au grand ravin. À ce moment-là, la population était énorme. 8,3 milliards d'humains,
s'exclama-t-il en pointant Chang'an du doigt.
Lui ? Il a vécu le grand ravin pendant quelque temps.
Changyan vida son verre de vin et, le regard vide, il prit le relais.
J'ai vu des cohortes de la faim, des millions de gens qui fuyaient la famine. J'ai vu le sable inonder le ciel de la plaine, un ciel chaud, une terre chaude, un soleil chaud. J'ai vu des cadavres être dépecés. Putain, c'était un véritable enfer.
Il existe des tas d'archives vidéo sur cette période, vous pourrez aller les visionner.
Quand on y pense, on peut s'estimer heureux d'avoir survécu.
Le grand ravin s'est poursuivi sur un demi-siècle environ. Rien que pendant cette période-là, la population de la Terre a chuté, passant de 8 milliards 300 millions à 3 milliards 500 millions d'habitants. Vous vous imaginez ce que ça représente?
Luoji se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. D'ici, il pouvait voir le désert derrière la forêt de protection des sables. Il recouvrait la grande plaine du nord de la Chine et s'étendait paisiblement jusqu'aux confins de l'horizon. La main du temps avait déjà tout aplani.
Et après ? Demanda Shixiang.
Changyan poussa un long soupir, comme si ne plus avoir à parler de ce morceau d'histoire le libérait d'un fardeau.
Après, certaines personnes se sont mises à réfléchir, de plus en plus. Les gens ont commencé à se demander si la victoire hypothétique de l'humanité lors de l'ultime bataille valait autant de sacrifices.
Pensez-y. Qu'est-ce qui est le plus grave? Un gamin qui meurt de faim dans vos bras ou l'extinction de la civilisation humaine?
Avec le recul, vous donnerez peut-être la deuxième réponse, mais mettez-vous à la place des gens de l'époque. Ils ne voulaient pas penser à un avenir lointain. Seuls comptaient les jours devant eux.
Bien entendu, en ce temps-là, une telle mentalité était considérée comme outrageuse, comme typique d'un traître à l'humanité. Mais ça n'a pas empêché les gens de penser et, peu à peu, cet état d'esprit s'est propagé dans le monde entier. Il y avait un slogan populaire à l'époque qui est depuis devenu une célèbre sentence historique.
Donner de la civilisation au jour lorsqu'on ne peut plus donner de jour à la civilisation, compléta Luoji, qui n'avait pas détourné son regard de la fenêtre.
Oui, c'est ça. Donner de la civilisation au jour, et ensuite, demanda à nouveau Shixiang.
Le deuxième mouvement des Lumières, la deuxième Renaissance, la deuxième Révolution française. Tous ces épisodes que vous pourrez retrouver dans les livres d'histoire.
Luoji se retourna, incrédule. Ses prédictions qu'il avait faites 2 siècles plus tôt en compagnie de Chuang Yan étaient devenues réalité.
Une deuxième Révolution française? Encore en France?
Non, non, c'est juste le nom qu'on lui a donné. C'était à l'échelle du monde entier.
Après cette grande révolution, les nouveaux gouvernements des nations ont décidé d'interrompre leurs projets spatiaux et de concentrer toute leur énergie à améliorer la vie de leurs concitoyens. À l'époque a été développée une technologie primordiale, l'utilisation de l'ingénierie génétique et de l'énergie de la fusion nucléaire pour produire à grande échelle des denrées alimentaires. C'en était terminé de l'alimentation venue de la nature, mais le monde a recommencé à manger à sa faim. Puis tout est très vite redevenu normal. Il y avait moins de gens, ça aidait. Au bout d'une petite 20aine d'années, le niveau de vie est revenu à celui qu'il était avant le grand ravin, puis à celui de l'âge d'or. Le monde entier était déterminé à poursuivre son chemin vers une vie agréable. Personne ne voulait plus regarder en arrière.
Il y avait une autre expression courante à l'époque que le professeur Luoji trouvera sans doute intéressante,
ajouta le voisin à côté de Luoji. Avant d'entrer en hibernation, l'homme avait été économiste et avait une connaissance profonde de ces questions.
Celle d'immunité de la civilisation. Par ce terme, on voulait dire qu'après avoir souffert d'une terrible maladie, l'humanité avait renforcé ses défenses immunitaires. Les événements du début de la grande crise ne se reproduiraient jamais. L'humanité d'abord, la survie de la civilisation ensuite. C'est devenu le socle sur lequel s'est bâtie la société moderne.
Et encore après ? Demanda Luoji.
Après, ça a été dingue, s'enthousiasma Xi Xiaoming. À l'origine, tous les pays du monde avaient l'intention de couler des jours paisibles et de laisser la crise derrière eux. Mais vous savez quoi ? Le progrès s'est mis à avancer à toute vitesse. La technologie a connu des avancées énormes dans tous les domaines et les obstacles techniques rencontrés avant le grand ravin par les stratégies des flottes spatiales ont été, contre toute attente, levés les uns après les autres.
« Ce n'est pas si dingue, » nota Luoji.
L'émancipation de la raison s'accompagne inévitablement d'un progrès scientifique et technologique. Après le Grand Ravin, il s'est écoulé à peu près 50 ans de paix. Puis le monde entier s'est remis à penser à l'invasion trisolarienne et s'est dit qu'il fallait tout de même songer à la guerre qui s'annonçait. Après tout, la puissance de l'humanité avant et après le Grand Ravin, c'était le jour et la nuit. Alors l'état de guerre a été une nouvelle fois décrété et on a commencé la construction de vaisseaux spatiaux militaires. Mais cette fois, contrairement à avant, tous les pays se sont mis d'accord sur un point. Les dépenses liées à la stratégie spatiale seraient circonscrites à un périmètre bien déterminé et ne devraient pas affecter l'économie et la société. C'est à ce moment-là que les flottes sont devenues des nations indépendantes. En réalité, il n'y a plus besoin de penser à tout ça maintenant, conclut l'économiste. Il suffit de penser aux jours qui viennent. La devise dont nous avons parlé tout à l'heure était en fait tirée d'une citation datant de l'âge d'or. Donner de la vie au temps lorsqu'on ne peut plus donner de temps à la vie. Trinquons à la nouvelle vie.
Ils vidèrent leur dernier verre d'alcool. Luoji félicita l'économiste pour ses derniers mots qu'il trouvait très justes. À cet instant présent, il n'avait dans le cœur que Chuangyan et sa fille. Il voulait d'abord s'installer le plus vite possible, puis il irait les réveiller. Donner de la civilisation au jour. Donner de la vie au temps.
Ce n'est qu'une fois à bord du Sélection naturelle que Chang Beiyei s'aperçut que le système de commandement moderne avait évolué au-delà de ce qu'il avait pu imaginer. Cet énorme vaisseau, dont la superficie équivalait à celle additionnée des trois plus gros porte-avions du XXIe siècle, était presque une ville. Il ne comportait étrangement aucun poste de pilotage, aucun module de commande, aucun bureau de commandant, ni aucune salle des opérations. Il ne s'y trouvait en réalité aucune cabine qui fût spécifiquement dédiée à une fonction. Toutes les pièces du vaisseau étaient presque identiques, des sphères régulières qui ne différaient que par leur taille. Grâce à des gants de données, il était possible dans n'importe quel coin du vaisseau d'activer un écran holographique. C'était un équipement assez rare et encore coûteux, même sur une Terre déjà hautement informatisée. Dans chaque recoin de l'appareil, il suffisait de disposer des droits d'accès appropriés pour accéder à une console de commande qui pouvait faire de n'importe quel endroit du vaisseau, y compris les toilettes et le long des couloirs, un poste de pilotage, un bureau de commandant ou un poste de commandement. Pour Chang Beiyei, c'était une évolution semblable à celle des réseaux informatiques de la fin du XXe siècle, qui était passé du mode client-serveur au mode navigateur-serveur. Avec le premier, vous ne pouviez accéder au serveur que si vous aviez installé un logiciel dans votre ordinateur. Tandis qu'avec le second, l'utilisateur pouvait accéder au réseau depuis n'importe quel ordinateur tant qu'il possédait les droits d'accès. Chang Beiyei et Dongfang Yongsu se trouvaient donc à présent dans une cabine ordinaire. Comme partout ailleurs, elle ne possédait aucun instrument ni aucun écran, c'était simplement un petit compartiment sphérique dont les cloisons étaient la plupart du temps blanches et qui donnait l'impression d'être enfermé dans une grande balle de ping-pong. Quand le vaisseau accélérait pour produire de la gravité, n'importe quelle partie de la cloison pouvait épouser la forme du corps et devenir un siège. C'était un autre aspect de la technologie moderne que peu de gens avaient autrefois imaginé pour le futur. L'aptitude à se passer d'équipement. Cette tendance commençait tout juste à toucher la Terre, mais c'était déjà un fondement structurel du monde plus avancé des flottes spatiales. Ici, tout était simple et vide. On ne voyait presque aucune installation, mais on pouvait les faire apparaître n'importe où quand cela était nécessaire. Après avoir été rendu complexe par la technologie, le monde revenait maintenant à une certaine simplicité, même si la technologie restait cachée derrière les apparences de la réalité. « Vous allez à présent assister à votre première leçon à bord du vaisseau, » dit Dongfang Yongsu. « Bien sûr, dans l'idéal, elle ne devrait pas vous être dispensée par une commandante en cours d'évaluation, mais aucun membre de la flotte n'est plus indiqué que moi. Aujourd'hui, nous allons effectuer ensemble une démonstration du lancement du Sélection naturelle. » et voir comment activer le mode de navigation. En réalité,
Il suffit que vous reteniez ce que vous allez voir aujourd'hui et vous serez en mesure de bloquer la principale voie de sortie des poinçonnés. » Elle activa avec son gant de données un écran holographique représentant une carte spatiale. « Il y a sans doute des différences avec les cartes spatiales de votre époque, mais elles prennent toujours le soleil comme élément central. »
Nous avons eu l'occasion d'en consulter quelques-unes lors de la formation. Je peux donc la lire sans grande difficulté, dit Chang Beiyei en observant la carte. Le souvenir de 2 siècles plus tôt, lorsque Chang Weizi et lui s'étaient retrouvés ensemble devant l'ancienne carte du système solaire, était encore frais. La carte qu'il voyait à présent indiquait avec précision la position de tous les corps célestes dans un rayon de 100 années-lumière autour du Soleil, soit une échelle 100 fois supérieure à celle de l'époque.
« Vous n'avez en fait pas forcément besoin de tout comprendre. Il est actuellement interdit de naviguer vers n'importe laquelle des positions de cette carte. Si j'étais une poinçonnée et que je voulais détourner le sélection naturel pour m'enfuir dans l'espace, j'aurais d'abord besoin de choisir une direction. » Comme ceci.
Dongfang Yansu activa un point de la carte qui se colora en vert.
Bien sûr, nous sommes à présent dans un mode de simulation car on m'a ôté les pouvoirs exécutifs du système de commandement. C'est vous qui les obtiendrez bientôt et je devrais donc avoir votre accord avant de commencer ce type de manœuvre. Si toutefois je vous en faisais la demande, ce serait probablement un acte malveillant. Vous devriez refuser et me dénoncer aux autorités.
Une fois la direction de la navigation déterminée, une interface d'opération apparut dans l'air. Durant sa précédente formation, Chang Beiyei avait déjà eu l'occasion de se familiariser avec ce type d'opération, mais il écouta avec patience les explications de Dongfang Yansu qui lui indiquait comment faire passer le vaisseau d'un mode éteint à un mode de veille, puis au mode attention, et enfin à celui d'avant très lente. Quand les autres membres du contingent de renfort et lui avaient vu cette interface, ils avaient été surpris par sa simplicité et son absence de détails techniques.
Voilà, si nous n'étions pas maintenant uniquement dans un mode de simulation, le sélection naturel aurait déjà décollé. Qu'en dites-vous? C'est quand même plus facile que faire démarrer des vaisseaux à votre époque?
Oui, c'est beaucoup plus simple.
L'opération est absolument automatisée. Le processus technique n'est même pas visible aux yeux du commandant.
L'écran n'affiche que les paramètres généraux. Comment peut-on savoir que le vaisseau est opérationnel?
L'état opérationnel du vaisseau est supervisé par des soldats et des officiers aux grades inférieurs. Leurs interfaces sont plus techniques. Plus le grade est faible, plus la complexité est grande. Les commandants et les vice-commandants du vaisseau ont pour mission de se concentrer sur l'essentiel. Bien, continuons. « Si j'étais une poinçonnée, c'est toujours une hypothèse, bien sûr. Croyez-vous que ce soit possible ?»«
Étant donné ma position, n'importe quelle réponse serait irresponsable. »«
Soit. Si j'étais une poinçonnée, je transmettrais l'ordre de passer directement en mode avant toute. Aucun vaisseau de la flotte ne pourrait intercepter le sélection naturel avec une telle accélération. »«
Mais vous ne pourriez pas, même si vous en aviez le pouvoir. » Il me semble que pour accepter cet ordre, le système doit d'abord s'assurer que tous les passagers sont dans un état de mer profonde avant d'entrer en mode avant toute.
À sa capacité maximum de propulsion, l'accélération du vaisseau pouvait atteindre 120 G,
mais cela avait pour conséquence d'exposer le corps humain à une hypergravité 10 fois supérieure à ce qu'il pouvait supporter dans des conditions normales. Il fallait donc que les passagers du vaisseau entrent à ce moment-là dans un état dit « de mer profonde ». Cela consistait à remplir chaque cabine d'un fluide respiratoire riche en oxygène. Le personnel entraîné pouvait alors respirer directement à l'intérieur de ce liquide. Tandis que les individus respiraient, le liquide emplissait leurs poumons et pénétrait ensuite dans chacun de leurs organes. Ce type de fluide avait été imaginé très tôt, dès la première moitié du XXe siècle. L'objectif était alors de faciliter la plongée en eau profonde, en équilibrant la pression à la fois hors et à l'intérieur du corps humain rempli de ce liquide. Celui-ci pouvait dès lors supporter de hautes pressions, comme les poissons des eaux profondes. C'était de cette similarité que venait ce terme d'état de mer profonde. Le liquide était maintenant utilisé pour protéger les corps humains lors des très fortes accélérations des vaisseaux spatiaux.
Dongfang Yansu hocha la tête.
En effet, mais vous savez probablement qu'il existe un moyen de contourner cette vérification. Il suffit de faire passer le vaisseau en mode téléguidage. Le système considérera alors que personne n'est à bord et jugera inutile de procéder à la vérification. Ce paramétrage fait aussi partie des pouvoirs du commandant.
Je vais faire un essai et vous me direz si tout est correct.
Chang Beiyei activa à son tour une interface devant lui et fit passer le vaisseau en mode téléguidage, jetant à plusieurs reprises des coups d'œil au petit carnet qu'il avait dans la main.
Dongfang Yansu sourit en le voyant utiliser une telle antiquité.
« Vous savez, nous avons aujourd'hui des moyens plus efficaces que ça pour prendre des notes. »
« Oh, c'est une question d'habitude. C'est particulièrement vrai pour les choses importantes. Cela me rassure de les écrire. Mais il est impossible de se procurer des stylos de nos jours. J'en avais pris deux avec moi avant de me faire hiberner. Mais seul ce crayon écrit encore. »
« Vous apprenez vite ?»«
C'est parce que le système de commandement a conservé beaucoup d'éléments de la marine. Après toutes ces années, le vocabulaire est resté presque identique. C'est le cas par exemple des ordres de navigation comme « avant très lente » ou « avant toute ».
La flotte spatiale prend en effet source dans la flotte navale.
« Bien, les pouvoirs de commandement du sélection naturelle vous seront bientôt transmis. Le vaisseau est actuellement en mode « attention », c'est-à-dire qu'il est prêt à « mettre les voiles », pour reprendre une expression de votre époque. »
Dongfang Yansu étendit ses bras fins et fit un demi-tour dans l'air. Chang Beiyei était encore incapable d'une telle figure en utilisant sa ceinture supraconductrice.
À notre époque, on ne mettait déjà plus les voiles, mais de toute évidence, l'histoire de la marine ne vous est pas inconnue, dit Chang Beiyei, pour ne pas continuer à discuter d'un sujet qui renforcerait l'animosité de la commandante à son égard.
C'était une branche militaire romantique.
La flotte spatiale n'a-t-elle pas hérité de ce romantisme?
Si, mais je vais la quitter. J'ai l'intention de donner ma démission.
À cause de l'évaluation ?
Dongfang Yansu se retourna et fixa Chang Beiyei. Sa dense chevelure noire tressautait encore sous l'effet de la pesanteur.
Cela arrivait souvent à votre époque, n'est-ce pas ?
Pas tant que ça, mais quand cela arrivait, les camarades comprenaient. Toutefois, accepter de faire l'objet d'une évaluation fait partie du devoir d'un soldat.
Deux siècles ont passé. Ce n'est plus votre époque.
Dongfang, ne creusez pas davantage le fossé générationnel qui nous sépare. Il y a toujours des similarités entre nous. Quelle que soit l'époque, un militaire doit pouvoir endurer ce type d'humiliation.
C'est-à-dire que vous me conseillez de rester ?
Non.
Le travail idéologique, c'est bien comme ça que vous dites, n'est-ce pas ? Ce que vous faisiez.
Plus maintenant, j'ai de nouvelles responsabilités.
Dongfang Yansu flotta avec agilité autour de Chang Beiyei, comme si elle l'examinait en détail.
Nous sommes tous des enfants à vos yeux, n'est-ce pas? Il y a 6 mois, je me suis rendu sur Terre pour la première fois. J'ai habité dans un quartier d'hibernautes. Un gamin de 6 ou 7 ans m'a traité d'enfant.
Chang Beiyei se mit à rire.
Ce n'est pas votre genre de rire, mais c'est peut-être ce qui vous donne un certain charme. Nous sommes donc des enfants?
À notre époque, la différence générationnelle était un concept très important. Si bien qu'à la campagne, il arrivait que dans des familles nombreuses, certains adultes appellent des enfants « oncles » ou « tantes ».
Mais votre ancienneté m'est complètement égale.
Je peux le voir dans votre regard.
Ainsi, vous aimez donc mes yeux ?
Ce sont ceux de ma fille. La réponse rapide et tranquille de Chang Beiyei, qui ne laissait transparaître aucune émotion, étonna beaucoup Dongfang Yansu. Il n'avait pas détourné son regard de son corps. Au cœur de la blancheur immaculée de la cabine sphérique, c'était comme si le monde s'évanouissait devant sa beauté.
« Votre fille et votre épouse, elles ne vous ont pas accompagné ? D'après ce qu'on m'a dit, les membres du contingent de renfort pouvaient demander que leur famille soit hibernée avec eux.
Elles ne sont pas venues et elles ne voulaient pas non plus me laisser venir. Comme vous le savez, les perspectives d'avenir en ce temps-là étaient très sombres. Elles m'ont reproché d'être irresponsable. Ma fille et sa mère ont quitté la maison. La nuit du lendemain de leur départ, le contingent a reçu l'ordre d'entrer en hibernation.
Je n'ai même pas eu le temps de les voir une dernière fois. C'était une nuit d'hiver, il faisait froid. Je suis parti de chez moi avec mon sac à dos. Bien sûr, je ne m'attends pas à ce que vous compreniez.
Je comprends. Et elle, ensuite ?
Mon épouse est décédée en l'an 47 de la Grande Crise. Ma fille en l'an 81.
Elles ont donc connu le Grand Ravin,
dit donc Fang Yansu en baissant les paupières. Elle demeura silencieuse un long moment, puis elle activa une petite fenêtre holographique et la fit passer en affichage externe. Les cloisons blanches de la cabine s'évanouirent. Le sélection naturel lui-même avait disparu. Il flottait au milieu d'un espace infini, faisant face à l'océan d'étoiles brumeux de la Voie lactée. Ils étaient devenus deux existences cosmiques autonomes, ne dépendant d'aucun monde, seulement entourés des abysses de l'espace. Ils étaient suspendus dans l'univers, comme la Terre, le Soleil ou la Voie lactée, sans origine ni destination. Ils ne faisaient qu'exister. Chang Beiyei avait déjà connu cette sensation 190 ans plus tôt. Ce jour-là, vêtu d'une combinaison spatiale, il flottait dans l'espace, serrant entre ses doigts un pistolet chargé de balles de météorites.
J'aime cette vue. Le vaisseau, la flotte.
Ils ne deviennent plus que des objets que l'esprit peut oublier, glissa Dongfang Yansu.
Dongfang, l'appela-t-il doucement.
La commandante se retourna, la lueur de la Voie lactée se reflétait dans ses pupilles. S'il arrive un jour où je n'ai d'autre choix que de vous tuer, je vous prie de bien vouloir me pardonner, murmura-t-il. Dongfang Yansu répondit par un sourire.
Vous trouvez que j'ai l'air d'une poinçonnée?
Il la regarda. Sous ces rayons de soleil qui traversaient 5 unités astronomiques pour parvenir jusqu'ici, elle était une plume légère voltigeant devant un décor d'étoiles. Nous appartenons à la Terre et à la mer. Vous appartenez à l'espace.
Est-ce mal?
Non, c'est très bien ainsi.